Bonjour, poursuivons notre série spéciale 30 ans du CHT en compagnie de Peter Donzoff, permanent de l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique de 1985 à 2001, auteur de 3 livres dont 2 parus aux éditions du Centre d'Histoire du Travail, La Citouche, Regard sur la Navale en 1997 et Un militant 3 poules en 2011.
C'est toi qui es venu frapper la porte du CHT ?
Non, pas du tout. À l'origine, c'est un journaliste, Michel Shed, que j'avais rencontré lors d'un départ en retraite. Il partait en retraite et je m'étais retrouvé à sa petite fête. Et il se trouvait qu'il y avait également Carlos Fernandez. Et Michel Shed avait déjà parlé avec Fernandez sur la possibilité pour lui et d'autres d'écrire sur la cité navale, cité qui est aujourd'hui disparue, qui est située un peu avant Couëron, là où se situe aujourd'hui l'usine arc-en-ciel. Donc Michel Shed vous avait dit, ce serait bien que Carlos et toi, Peter, vous écriviez sur la cité navale, car elle va disparaître et il n'y aura aucune trace, plus personne n'en parlera. Michel Shed, j'aimais bien. Et je me suis dit, mais moi, je vois pas comment je pourrais écrire. Je suis pas un écrivain. J'ai pas de talent. Il me dit, bon, écoute, je vous donne un an à toi et à Carlos. Vous écrivez, Carlos, tu écris puisqu'il y avait plusieurs cours dans cette cité, 3 cours. Carlos, tu écris sur ta cour, et toi, Peter, tu écris sur la tienne. On se donne un an. Et moi, Michel Shed, je réunis vos écrits et on en fait un livre. Donc moi, j'étais syndicaliste à la CGT à l'époque, permanent, et quand je donne ma parole, je la tiens. Donc, alors c'était très difficile, comment parler d'une cité que j'avais connue. J'étais arrivé, j'avais 4 ans, et je suis parti de cette cité, j'avais à peu près 15-16 ans. Alors c'était très compliqué de parler d'une cité, comment commencer. Alors je me suis dit, tiens, je vais parler des personnages, des personnes qui m'ont marqué au cours de mon enfance dans cette cité, et à travers leurs traits de caractère, ça permettra de vivre l'ambiance, de décrire l'ambiance de cette cité, plutôt que de la décrire au niveau de l'architecture. Donc j'ai réuni quelques souvenirs, j'ai contacté mes frères, mes sœurs, puis des anciens de la cité navale, et j'ai commencé. J'ai commencé à taper à l'ordinateur. Je venais tôt le matin à la CGT, je venais dès 6-7 heures. Je partais le midi, j'allais pas manger, je tapais à la machine, je réunissais tout ça. Et le soir, je continuais, et puis le dimanche matin, etc. Si bien qu'au bout de 3 mois, j'en avais marre, j'avais tout dit, enfin pour moi, j'avais tout dit. Ça faisait un certain nombre de pages. Et comme à la CGT, il y a une imprimerie, donc je m'étais aussi, en même temps, inquiété auprès de Carlos Fernandez pour savoir où il en était. Alors lui, il m'avait dit, on a un an, Peter, on a le temps, il y a 3 mois, moi j'ai le temps. Donc je dis, bon, écoute, moi j'ai terminé, donc je vais faire un petit cadeau à ma famille. Donc à l'imprimerie de la CGT, j'ai tiré des planches de mes brouillons, 1, 3, 5, 7, et j'ai tiré à l'imprimerie de la CGT 100 exemplaires, que j'ai appelé « Un regard sur la navale », avec une couverture rouge et noire, faite à l'imprimerie de la CGT, etc., collée à la main, 100 exemplaires. Et je me suis dit, 100 exemplaires, l'année de mes 50 ans, j'offre ces 100 exemplaires à 100 personnes qui m'ont jamais fait de petits dans le dos, qui ont toujours été sympas avec moi. Donc j'en ai filé à Krasuki, à tous mes camarades que j'aimais bien de la CGT, le secrétaire général, le secrétariat de l'UD, à des copains journalistes, dont Marc Pennec, à des éléments de ma famille, à ceux qui m'ont aidé à l'écrire, des copains de la Naval, etc. Et sitôt lu, il a fait un tabac, alors qu'il n'était pas édité du tout. Si bien que Marc Pennec m'a fait un article sur Ouest France, un article qui a fait pleurer dans les chaumières, et cet article, il se trouve que Christophe Patillon a dû le lire. Et Christophe Patillon, je le connaissais quand le Centre d'Histoire du Travail était à la Bourse du Travail. Je l'ai connu donc tout jeune, quand il arrivait. Mais à l'époque, ils étaient ici, là. Ils étaient après Réauduc. Donc je reçois un coup de fil de Christophe Patillon à la CGT. Il me dit, écoute, il paraît que tu as écrit un truc sur la navale. Je dis, attends, c'est pas les chantiers navals, c'est une cité. Il dit, est-ce que tu peux m'envoyer tes feuilles? Donc je dis, pas de problème, donc je lui envoie un fichier. Et 2 ou 3 jours après, il me rappelle, il dit, écoute, ça nous intéresserait de l'éditer. Je dis, ouais, mais c'est compliqué parce que À l'origine, ce bouquin ne doit en faire qu'un avec celui de Carlos, qui n'est pas tout à fait terminé. Il dit, bon, écoute, je vais contacter Carlos. Moi, je lui dis, il faut lui en parler avant. Bon, Carlos, il dit, il a qu'à l'éditer. Donc, le Centre d'histoire du travail l'a édité dans un premier temps, à 1500 exemplaires, je crois, et la souscription, ça fait un tabac. Ça s'est vendu comme des petits pains à Couéron. Je me souviens que quand je dédicassais à Couéron dans un café, il y avait une queue qui durait 2 heures pour des dédicaces. Ensuite, il y a celui de Carlos qui est sorti, peu de temps après, ce qui était sur la route des Sables. Il y a des anciens de la Navale qui ont décidé de créer une association, la Navale 2001, et la première année après la sortie du bouquin, ils ont organisé une fête à l'endroit où était la cité navale, dans la petite zone artisanale près d'Arc-en-Ciel maintenant, là. Et ça a permis de regrouper près de 200 ou 300 personnes qui ne s'étaient pas revues depuis 30 ans. Ça me permet de dire que grâce au CHT, l'initiative du CHT de publier une personne qui ne connaissait pas, mais une personne, cette initiative a permis de faire se retrouver des personnes qui ne s'étaient pas revues depuis 30 ans, dans une cité où ils avaient vécu l'essentiel de leur vie, connu leur jeunesse, etc., etc. Donc rien que pour ça, je leur suis très reconnaissant.
Ça veut dire qu'avant, pas de contact direct avec le CHT ?
Non, parce que moi j'étais pris par mon travail de permanence, je savais qu'ils existaient, mais sans plus. J'étais né dans le guidon, mais après je me suis intéressé davantage à ce qu'ils faisaient. C'est là que j'ai appris qu'ils recueillaient les archives de différents syndicats, de partis politiques, de syndicats paysans, etc. Et que la CGT aussi, mais que la CGT rechignait un peu, etc. Donc depuis, bon, on se connaît plus, on est même devenu pratiquement copains. Et dès que je peux parler du CHT autour de moi, je le fais, quoi, parce que je pense que c'est... Sans dire que j'ai une dette envers eux, mais je trouve que ça mérite d'être connu. Quoi. Parce que ça permet à des syndicalistes de raconter des événements que sans le CHT, personne ne se souviendrait. La cité navale, qui s'en soucierait aujourd'hui, alors que ça a été un creuset de personnes de qualité qui militaient au Parti communiste, à la CGT, qui étaient tous des personnalités très connues dans la région, qui ont été des permanents, des secrétaires de syndicats. Aux Forges de Bassindre, à Tréfimetto, qui ont été élus, voire adjoints à la mairie de Couéron, qui ont fait des grandes choses sur Couéron. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si un mouton, ça pouvait penser. Mais moi, j'habite en campagne à Couéron. À 2 pas de chez moi, il y a un poulailler. Et tous les matins, pendant 15 ans, quand j'allais à la CGT, quand je partais, vers 6h30, 7h, les poules accouraient du poulailler. Les poules. Donc je regardais les poules, puis je me disais, tiens, un jour, à quoi ça peut penser une poule ? Et en même temps, à la sortie de la Citouche, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais t'as pas tout dit dans la Citouche, ça méritait autre chose, ça se termine trop brutalement, il faut une suite. Donc un jour, j'avais discuté avec Christophe, et je lui dis, tiens, un jour, il y a 5-6 ans peut-être, je ne sais plus trop, j'aimerais bien écrire un truc sur les poules une fois, raconter le syndicalisme avec le regard d'une poule. Donc il rigolait, il paraissait intéressé, puis à force de le tanner, un jour, il me dit, écoute, tu écris, puis on verra ce que ça donne. Donc... dans les années 2000, j'ai quitté la CGT, puis je suis retourné bosser à la mairie. Puis après,
de Saint-Herblain.
De Saint-Herblain, bien entendu.
Parce que tout le monde ne te connaît pas.
Ah, d'accord. Ouais, la mairie de Saint-Herblain, sous la responsabilité, premièrement, j'ai été embauché à la mairie de Saint-Herblain sur concours, sous M. Jean-Marc Ayrault, et ensuite j'ai continué, j'ai été détaché syndical, et j'ai terminé ma carrière sous Charles Gauthier. Donc je me suis mis à délirer autour des poules, quoi. L'histoire de ce militant et trois poules, c'est que Gergarde, et je vois qu'elle me regarde. Mais il y en a trois qui paraissent un peu plus intéressés, quoi, un peu plus intéressés. Alors, en leur parlant, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Donc, je leur raconte un peu ma jeunesse, que je n'avais pas tout dit dans l'institut. C'est ainsi que je leur annonce que, étant jeune, j'ai fait un certain nombre de bêtises, que je m'étais engagé dans la Légion étrangère, que j'étais réformé, que j'ai fait que j'étais un voyou, que on était en bande, etc. Donc je racontais toutes mes conneries de jeune en me repentant un peu quand même, en constatant que c'était comme des conneries. Donc et puis après je leur parle du syndicalisme et elles ne disent toujours rien, toujours rien, toujours rien. Donc j'en discute avec ma femme. Évidemment, elle me dit, mais c'est vrai qu'une poule, ça ne peut pas parler. Ou t'imaginais qu'une poule pouvait parler. Puis un beau jour, il y en a une, je continue à monologuer, à dialoguer avec elle. En fait, c'est un monologue, mais moi, j'imaginais que c'était un dialogue. Puis il y en a une qui commence à répondre. En réalité, il y en a trois qui sont plus intéressés. Il y en a une blanche, une noire et une rouge. Alors, la blanche, alors moi je parle du syndicalisme aujourd'hui, des difficultés qu'il rencontre, mais qu'il connaît depuis des décennies et des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre encore aujourd'hui. Donc, si bien je me pose des questions sur a-t-il un avenir, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier. Alors, il y a la poule blanche qui me prodigue un certain nombre de conseils, elle a sa vision. La poule rouge, elle n'est pas tout à fait d'accord avec. Elle me dit, moi, je verrais plutôt une société comme ça, un peu plus. Enfin, je ne vais pas tout te dire. Je pense quand même que j'étais dans mon syndicat, j'étais ce qu'on appelle un bon militant d'entreprise. Un bon militant, à Saint-Herblain, je faisais du bon taf, du travail de terrain. Mais je ne me suis jamais considéré comme un cerveau syndical, hein, jamais. Moi, je suis quelqu'un de terrain, de proche, qui apporte des réponses concrètes à des gens qui en ont besoin. Donc je pense que ce petit syndicalisme de proximité me convenait bien. Or, à l'époque, au niveau de l'union départementale, on sait bien que les unions départementales regardent un peu la santé de leur syndicat. Et j'avais dû taper dans l'œil, par mes résultats syndicaux locaux, que je devais être pas trop mal. Et en plus, comme tu le dis, je pouvais bénéficier d'un détachement syndical. Or, chacun sait que les unions départementales, notamment la CGT, qui n'a pas les possibilités d'autres, donc c'était une aubaine d'avoir une personne détaché syndical, c'est-à-dire qui serait payé par l'État, parce que c'est une dotation globale de fonctionnement que bénéficient les communes, etc. Donc on m'a pris, on m'a sollicité pour être secrétaire du D, alors que l'Interpro je connaissais pas du tout. J'étais alcoolique jusqu'en 77, là on était 84, donc moi pendant mon alcoolisme j'ai jamais rien connu, hein, politiquement, je suis rien. Donc j'arrive à la CGT. Bon, je pense que le secrétaire général m'a pris, parce que j'avais sans doute, et j'en suis certain, certaines qualités humaines, morales, intellectuelles et syndicales, mais aussi parce que j'apportais le plus financier. Voilà. Parce que je pense que des militants de valeur, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les entreprises du privé, mais là, il faut les détacher, il faut les payer, c'est très compliqué. Parce que le syndicalisme, depuis de nombreuses années, est en chute libre, donc un permanent syndical, il est payé par les cotises, par les cotisations. Donc beaucoup de syndicats ont intérêt à bénéficier des avantages que procure la fonction publique territoriale et d'État, c'est-à-dire de détacher des permanents dans les entreprises où ils ne payent pas, ils ne les payent pas. Quand on est permanent syndical, on est là 24 heures sur 24. Je pense que plus intéressant, c'est d'essayer d'apporter son aide à des personnes isolées qui n'ont pas les moyens, le matériel, enfin même l'intellectuel, pour essayer de monter un syndicat. Donc moi, jamais faire ça. Et je me suis déplacé à maintes reprises pour essayer de construire avec les personnes qui le voulaient des syndicats. Je pense que c'est ça le plus important. Mais après, Il ne s'agit pas de les envoyer à l'abattoir. Moi, l'épisode que j'ai vécu du côté Chateaubriand, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Quand j'ai rencontré quelques gars de la cinquantaine qui en paraissaient presque 60, complètement détruits, qui travaillaient dans une charcuterie industrielle et qui me dit on veut monter un syndicat. Alors, j'avais tout expliqué. Il y aura des risques, patati. Mais ils étaient tellement sûrs d'eux et de la confiance qu'ils avaient envers leurs potes qui étaient censés voter pour eux, qu'ils se sont écrasés lamentablement. Le patron les a zigouillés, les a virés en achetant les autres. Ça montre bien que le syndicalisme aujourd'hui, même s'il est en difficulté, parce que c'est extrêmement difficile de monter des syndicats dans des petites boîtes où les gens sont complètement démunis face à des patrons qui les dominent tant intellectuellement, financièrement, qui les maintient sous son fouet, quoi. Parce que dès qu'ils osent se rebeller un peu, ils leur exercent un chantage à travers la famille, à travers les copains. Donc, moi j'aimais apporter cette aide en sachant que c'était très difficile, mais je les mettais en garde. Je préférais parfois qu'ils ne montent pas le syndicat plutôt qu'ils se fassent lourder. Alors que je connais d'autres personnes qui aurait voulu faire du chiffre et monter absolument un syndicat. Ah, ben c'était pas mon truc. Au moment des sans-papiers, quand nous les avons accueillis à la Bourse du Travail, ça s'est fait bien. Tout le monde était d'accord. Sauf que ça a quand même bousculé quelques attitudes. Et si la position de fond de la CGT a été accepté, il est évident que dans la CGT, il y en a qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Ce serait complètement faux de dire qu'on était un bloc unanime pour dire qu'on était tous d'accord.
Peter Donzoff, auteur de La Citouche, Regard sur la Navale et D'un militant trois poules, deux livres parus aux éditions du Centre d'histoire du travail, est l'invité du magazine.
Les sans-papiers ont vécu des années à la Bourse du Travail, mais si bien qu'à la fin, j'étais devenu monsieur de la société qui s'occupait des sans-papiers. Et comme ça m'intéressait, parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'être humain et la condition de l'être humain, plutôt que de définir des hautes stratégies, j'étais bien avec eux. Donc je discutais avec eux, je faisais un peu d'alphabétisation, j'essayais de coordonner les 50 associations, parce que ça allait des anarchistes aux bonnes sœurs, avec les... donc chacun avait des motivations très différentes, j'essayais d'être le médiateur de tout ça, le réformiste de tout ça, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais au fil du temps, j'étais libre à moi-même, et dans le collectif, je parlais au nom de la CGT, sans avoir l'avis d'autres de la CGT, puisque personne ne s'en préoccupait. Si bien qu'à un moment donné, avec la CGT, on est tombé en désaccord, fatalement en désaccord. Après, ça s'est terminé comme ça, j'étais un des derniers à les voir partir, et ce qui a complètement... on n'est pas devenus des ennemis, on ne se déteste pas. Ce qui a fait le clash, c'est que quand on a quitté la Bourse du Travail, au moment de la lutte avec les sans-papiers, j'avais rencontré des jeunes artistes qui, eux, luttaient pour, comme ça se faisait dans d'autres régions, pour obtenir des friches. Donc ils me disent, ce serait bien, alors les sans-papiers étaient encore dans la Bourse du Travail, mais nous on partait ici, là. Donc la Bourse du Travail... Moi, l'objectif, c'était qu'elle devienne une grande maison de la culture, en fait, une maison des associations, une grande maison des associations. Et je dis, ce serait pas mal que eux, s'ils squattent ça pendant qu'on n'est pas là, c'est bien. Donc, j'en avais quand même informé mes camarades, qui à un moment étaient d'accord, et après ne sont plus devenus d'accord, si bien que je les ai trahis, entre guillemets, et j'ai laissé les portes ouvertes gentiment pour que les artistes puissent investir la Bourse du Travail quand nous, on est parti à la gare de l'État. Bon, 3 heures après, les CRS sont venus, et ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas eu un communiqué de presse de la CGT qui condamnait l'intervention des forces de l'ordre, mais qui condamnait l'initiative du squat des jeunes. Alors que moi, Peter Donzoff, au nom du collectif des sans-papiers, je condamnais l'intervention des CRS. Alors, les gens, quand ils lisaient Peter Donzoff, ils disaient, mais les comptes de la CGT.
Merci à Peter Donzoff pour sa libre participation à cette émission réalisée à l'occasion des 30 ans du Centre d'Histoire du Travail.
Les jeunes, ça aurait été un très bon truc qu'ils occupent la Bourse du Travail parce qu'elle a encore muré et elle est toujours dans l'état dans lequel elle est murée il y a 10 ans, peut-être.